Romains au chapitre 6, et on est rendu au verset 14, et on va considérer ce verset-là, mais j'aimerais lire à partir du verset 6 quand même, parce qu'il y a les trois, ce que Dieu veut qu'on sache, ce que Dieu veut qu'on croie, ce que Dieu veut qu'on fasse, et ensuite on va voir le verset 14, où est-ce qu'on va tirer notre message aujourd'hui. Je ne sais pas trop où on va le tirer, là. On va le tirer par la fenêtre? J'espère que non. Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments de péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. On va parler de la relation qu'il y a entre le péché et notre corps, nos membres. Le véhicule, un des auteurs que je lis, que j'ai lu, il appelait ça notre... notre enveloppe terrestre. C'est vrai, il n'y a qu'une enveloppe blanche, brune, jaune, rouge. Mais c'est juste des enveloppes. La vraie personne, c'est la personne qui est dedans. Des petites enveloppes à deux pattes qui se promènent, puis il y en a qui sourient, il y en a qui ont l'air plus bêtes. C'est des petites enveloppes ambulantes. Et donc, on va parler de la relation entre le corps et le péché. Là, on a beaucoup parlé de, tu sais, on a été crucifié avec Christ. Puis là, on a développé ça, là, mort au péché, vivant pour Dieu, OK? Donc, on marche en nouveauté de vie. Et lorsqu'on... on est ouvert à ça, puis qu'on commence à expérimenter cette libération du péché, il y a un nouveau danger qui se présente à nous. Il faut en être conscient pour ne pas tomber dedans. Parce que, évidemment, le Saint-Esprit, lorsqu'il nous montre l'œuvre de la croix, hein, que le vieil homme a été crucifié, et que ça, ça fait que c'est notre identité, c'est plus ce qu'on était, c'est ce que Dieu a fait de nous autres, OK? Lorsqu'on comprend ça, lorsqu'on comprend et qu'on applique l'œuvre de la croix dans nos vies, on a une méchante affaire de régler, là, OK? Et ça, c'est très beau, c'est très bon, mais il y a le danger de devenir complaisant, et on en a parlé un peu dans le message précédent, mais on peut devenir complaisant en pensant que vivre une vie où est-ce qu'on a la victoire sur le péché... c'est une question réglée, puis qu'on ne voit plus notre besoin de vivre toujours et constamment à la lumière de la croix, à la lumière de ce que Christ a fait pour nous autres. C'est pas une affaire, ah, c'est fait, puis là, je passe à autre chose. C'est constamment. Tu sais, c'est pas l'idée qu'on meurt au péché, ça, c'est réglé, mais on vit à la lumière qu'on est mort au péché. Il faut constamment se rappeler cette vérité qu'on est mort au péché, vivant pour Dieu. Et le danger, c'est de devenir complaisant, puis juste, ah, mais je sais ça, c'est merveilleux, puis comme passer un autre appel, puis ne pas garder ça toujours à l'avant de nos consciences, à en être éveillé, OK? Parce que le vieil homme, on l'a vu, hein, c'est réglé, il est mort, la croix s'en est occupée, on a tous vu ça. Mais savez-vous qu'on a encore une volonté, une pensée, puis des émotions qui habitent dans nos membres? On a une chair... une pensée sur les voies de Dieu, puis la vie. On a des émotions qui ont une motivation, une propension à certaines choses. Puis on a une volonté aussi. OK? C'est de ça qu'on va parler. L'expérience de la chair dans la vie du croyant. Et cette chair-là, on va en parler maintenant. Il faut savoir que, oui, Dieu s'est occupé de la question de notre vieil homme, mais on est encore pris avec cette chair. Ou, comme ça dit au verset 6, et on va développer ça un peu, ça nous parle du corps du péché. OK? D'abord, il faut savoir que le corps en tant que tel, ce n'est pas. Il y avait des philosophes à l'époque là, qui disaient que le corps, c'est foncièrement mauvais. Okay? C'est de la matière, c'est mauvais. Ça, c'est faux. Et Dieu nous a donné un corps. Et le corps, il est neutre, dans le fond. Il n'est pas mauvais ou bon. C'est juste qu'on peut s'en servir pour faire du bien. On peut s'en servir pour faire du mal. Comme on a vu, on peut s'en servir comme instrument de justice ou d'iniquité. T'sais, c'est un véhicule. OK? Donc, c'est pas que le corps en tant que tel soit intrinsèquement mauvais ou bon, mais il est l'endroit où habite le péché. OK? Le péché est dans nos membres. OK? C'est là qu'il habite, dans notre corps. Quand que je dis quelque chose de méchant, j'utilise ma bouche. OK? Le péché va servir du véhicule de ma bouche pour s'exprimer. OK? C'est pour ça qu'on voit... quand ça nous parle du vieil homme, ça parle de quelque chose de réglé, mais le Saint-Esprit dans Romains 6:6, ça nous parle du corps du péché. Puis tu sais, toute écriture est inspirée de Dieu, c'est vraiment une bonne expression, le corps du péché. Parce que avant qu'on passe par la croix, avant qu'on connaisse l'expérience d'être libéré de notre vieil homme, on était complètement esclaves du péché. Okay? Le péché régnait dans nos corps et on en était esclaves. Dieu s'est occupé de notre vieil homme, puis ça nous dit qu'il a donné un coup, hein, il a rendu impuissant, il a donné un coup fatal à notre corps du péché, mais il ne l'a pas éradiqué. On a encore la chair. On a encore le péché dans nos membres. Okay? Ceux qui ne savaient pas, là, désolé de vous donner cette nouvelle après-midi, là, mais ça, c'est la vie. OK? Donc, avant de nous considérer comme morts au péché et de céder notre corps à Dieu, il faut voir que, avant que ça arrive, il faut voir que le péché, c'était lui qui possédait nos corps, c'est lui qui régnait, c'était le boss, OK? Puis, il régnait en roi et maître sur notre corps. Ou pour le dire autrement, notre corps, c'était, si vous voulez, la forteresse du péché, l'outil du péché. Voyez-vous là, le lien, là? OK? Bon. Puis, il n'y avait comme pas, il n'y avait pas d'opposition à ça. Parce que la croix n'était pas encore appliquée sur nos vies. OK? Donc, c'était le corps du péché, puis c'est tout ce qu'il y avait. Maintenant, en Jésus-Christ, Dieu a brisé cette emprise-là. On a changé de maître. Le maître n'est plus le péché, c'est Jésus-Christ, mais l'intrus est encore là. On a encore le péché qui est dans nos membres. OK? Et lorsque on lit Romains 6, 7, 8, Romains 6, 7, 8, là, c'est la... Comment dire? La révélation divine sur l'affranchissement du péché. Vous voulez savoir comment être affranchi du péché, savoir ça ressemble à quoi, c'est quoi que ça implique? Romains 6, 7, 8. C'est ce que Dieu a à dire sur la libération du péché. OK? Ben, on comprend quand on lit ça que, OK, Dieu a fait un nœud avec notre vieil homme et tout ça, mais on est encore pogné, notre corps n'est pas encore pleinement sauvé. On attend la rédemption de nos corps. Nos corps sont encore poignés avec le péché dans nos membres. Okay? On le voit bien quand on regarde dans Romains, là, spécialement 6, 7, 8. On est libéré de la puissance du péché, mais on n'est pas encore libéré de la présence du péché dans nos membres. Okay? Puis juste pour vous dire, là, pour vous dire comment que le péché et le corps sont en lien, je l'ai dit tantôt, il y a l'expression « corps du péché » au verset 6. Dans verset 12 et 13, avez-vous remarqué que le péché ne règne donc point où? Dans vos corps mortels. Et quand ça parle de livrer nos membres au péché, OK? Puis même ça continue, si on lisait dans le chapitre, on ne vous a pas obligé de dire, ben, vous l'avez peut-être juste sous les yeux, là, mais chapitre 7, au verset 5, ça dit les passions des péchés qui agissent dans les membres. Puis on voit aussi au verset 23, mais je vois dans mes membres une loi différente qui me rend captif à la loi du péché dans mes membres. OK? Donc, puis aussi, ben, le fameux verset 24, qui me libérera de ce corps de mort. Ben, voyez-vous que Le corps est le lieu où habite le péché. Puis verset, chapitre 8 aussi, ça nous parle au verset 10, chapitre 8, 10, le corps est mort à cause du péché. Le Saint-Esprit aussi nous dit dans le verset 10, il nous rendra la vie à nos corps mortels. Donc la mort est encore dans notre corps. On n'est pas affranchi, on a encore la malédiction d'Adam, même si on n'est plus en Adam, nos corps sont encore pognés avec la malédiction qui va avec ça. Okay? Parce qu'on vit encore dans un corps. On n'est pas dans un corps céleste. Notre corps n'est pas encore glorifié. Puis, juste encore d'autres références. Verset 8, 13. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Puis ça nous parle au verset 3. Vers 3, je l'ai référé tantôt. La rédemption de nos corps. Ça, on l'attend. Ce n'est pas arrivé encore. On a les prémices. On a le gage. On a le dépôt que Dieu a fait. On est scellé du Saint-Esprit. Mais on est... Le rachat complet n'est pas encore accompli. OK? Donc, une fois qu'on a tous lu ces versets-là, on voit à quel point Dieu il accorde l'importance à notre corps. Là. Fait qu'on n'est pas comme ces philosophes là, qui disent « Ah, oh, le corps, ça ne sert à rien. » Non, non, Dieu, il reconnaît qu'on a un corps et qu'il y a quelque chose qu'il faut se faire avec ça parce que, mettons que ça fait pas mal partie intégrante de notre vie. Donc, Dieu a quelque chose à dire sur notre corps. Et pourquoi il en a tant à dire? Parce que c'est la sphère spécifique où l'activité du péché se passe. Comme je disais, pour pécher, là, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un corps pour pécher. Tu sais, si je veux écouter de la médisance, ça me prend des oreilles qui vont prêter oreille à cette médisance. Si je veux donner un coup de pied parce que je suis en colère dans le cadre de porte, ça va faire mal, elle ne bougera pas bien, ou dans la porte, ou whatever, ben, ça me prend un pied qui va exprimer le péché de ma colère, comprenez-vous? C'est le véhicule, l'expression du péché, c'est à travers le corps. Évidemment, aussi, on peut avoir des péchés dans notre pensée, mais c'est quoi ça? C'est le cerveau, puis c'est OK? Nos organes. La raison pour laquelle l'homme non régénéré est esclave du péché, c'est parce que son corps est dominé par le péché, ou si vous voulez, c'est la marionnette du péché. Maintenant, en Jésus-Christ, cette domination-là a été brisée, mais la présence est toujours là. Et... si on n'est pas conscient de ça, on ne verra pas notre besoin de voir ce péché qui est dans nos membres, d'être traité encore là parce que la parole de Dieu nous donne comme solution. C'est ça qu'on va voir. Parce que là, je vous mets un peu la table pour voir le lien entre le péché et le corps. Une dernière petite chose par rapport à ça. Quand ça nous dit que le vieil homme a été crucifié, c'est quoi le mot qui vient après? Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin, dans le but de... Okay, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Donc Dieu a fait quelque chose pour s'occuper de cette domination-là. Il a crucifié le vieil homme, la source. Okay? Le vieil homme, là, il ne voulait que le péché. Puis là, l'homme nouveau que nous sommes en Jésus-Christ, il ne veut que la justice, il ne veut que Dieu. Donc là, on a changé de maître, puis de okay, puis c'est Christ en nous. Et donc, le vieil homme était le collaborateur du péché. OK? Le nouvel homme occupe désormais la place, puis c'est lui qui doit céder à l'esprit du Dieu vivant qui habite en nous pour avoir la victoire sur ce péché qui est dans nos membres. Donc, à cause que Dieu a crucifié notre vieil homme, le péché ne peut plus utiliser notre corps comme il veut. Il faut que ce soit nous qui décide d'y donner l'accès. Avant, on n'avait pas le choix. Là, on a le choix. Ça, c'est très important ce que je viens de vous dire là. Le péché, il était là avant, il est là maintenant. Mais avant, on n'avait pas le choix, on était esclave. Maintenant, on a le choix. Si on pêche, parce qu'on décide de donner accès au péché. OK? Donc, le péché ne peut plus utiliser directement notre corps comme avant. Il faut qu'il donne la permission, l'assentiment. Encore là, c'est une affaire de dire, ben, on serait bien cabochon de faire ça. Ben oui, on est tous dans le même club. On est pas mal cabochon, on dit oui au péché pour s'exprimer à travers notre corps. À moins qu'il y ait un parvenu ici dans cette salle pour me dire « Non, moi je dis tout le temps non, je donne... » Mais tu sais, quand tu regardes la main, hein, « pourquoi je dis oui? Hein, » parce que c'est ça. On est pas encore affranchi complètement. Hein? Mais je vous dis par exemple, notre cœur régénéré, le nouvel homme veut tout le temps plaire à Dieu. C'est pour ça qu'on parlait de lutte interne un matin, ça continue dans le même sens. Donc là, j'ai pas mal expliqué le premier point par rapport le corps, le péché, le lien entre les deux. Maintenant, je vais amener une autre affaire. Je disais tantôt que la puissance du péché a été brisée, mais sa présence est toujours là. OK? Jusqu'à temps qu'on ait la pleine rédemption, quand on va être dans la présence de Dieu, plus de péché pantoute. Mais on a une âme. OK, là, je vous explique quelque chose. Nous, là, ici, à l'Église, là, dans nos constitutions, notre déclaration de foi, on dit que l'homme est fait en trois parties. Ça, c'est important. Corps, âme et esprit. On ne pense pas que âme et esprit, c'est synonyme. On croit que c'est distinct. Adam et Ève, dans le jardin, quand ils sont morts, ils étaient-tu un cadavre à terre puis c'était la fin de l'humanité? Non. Fait que leur corps n'est pas mort. Fait que, on s'entend, ils étaient là. Est-ce que l'âme, là, c'est notre personnalité, c'est ce qu'on est, c'est notre vie? OK? C'est le bios. C'est ce qu'on est naturellement. C'est notre personnalité, c'est ce qui fait qu'on est une personne unique. Est-ce que Adam et Ève vont arrêter d'être des personnes uniques avec chacun leur... Non. Fait qu'il y avait leur âme. C'est pas ça qui est mort. Fait que c'est pas le corps qui est mort, c'est pas l'âme qui est mort. Qu'est-ce qui est mort? Leur esprit. Ils sont morts spirituellement. OK? C'est leur connexion avec Dieu. Notre esprit, c'est ce qui connecte avec l'esprit de Dieu. Ça, à la chute, ça a été fini. OK? Ben, c'est ce que Dieu régénère, c'est ce qui redonne la vie à notre esprit lorsqu'on est né de nouveau. Mais on a encore un âme. Une âme. Une âme? Une âme. Une. Je fais attention, j'ai une minute qui me surveille. Là. Je suis stressé pas mal. Non, je ne suis pas stressé, c'est pas vrai. Mais écoutez bien ce que je vais dire, là, c'est important, c'est que l'esprit communique à notre esprit, il rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. La communication entre l'esprit de Dieu se fait avec notre esprit. Okay? Puis l'esprit de Dieu a une pensée, il a une volonté, puis il y a même des émotions, il y a des désirs. OK? Ça, c'est toujours bon, c'est beau, c'est de Dieu. Mais notre âme, là, notre personne unique à nous, là, OK? On a notre volonté, notre pensée, puis nos émotions. C'est ça le problème. Houston, we have a problem. OK? C'est là, justement, où est-ce que ça joue. Pourquoi que je disais tantôt, mais pourquoi qu'on donnerait notre assentiment au péché? Hein, on serait bien cabochon de faire ça, mais parce qu'on a notre volonté à nous autres. Que l'on dit, ben, pourquoi je ferais pas ça? Puis on a nos raisonnements à penser qui vont justifier ça. OK? L'accès que le péché a à notre corps, c'est à travers notre âme. Où est-ce que ma pensée, ma volonté, mes émotions, je les écoute au lieu d'écouter ceux de l'Esprit de Dieu qui communiquent à mon esprit. Donc, je suis... En anglais, on dit, on n'a pas l'expression en français, je suis soulish. Soul, like soul... Je suis amique. Ça ressemble à Amil. Non, non, mais ça se dit pas. C'est, je me laisse diriger par mon âme. Je suis pas spirituel. Je suis pas nécessairement charnel all the way, mais ça revient à ça. C'est une autre façon de dire charnel. Parce que j'écoute, moi, ma chair, ce que je veux. Ça peut paraître bien, par exemple. Ça veut pas dire que, tu sais, quand je dis charnel all the way, ça veut pas dire que c'est la grosse chair pas fine qui a de l'air vraiment. Qui est pas belle. Là. OK? Ouais, écoute ton cœur. Bon, mais Dieu nous a donné un nouveau cœur. On peut écouter le cœur que Dieu nous a donné avec son esprit, nous communique dans notre cœur sa volonté. Bon. Donc là j'ai encore tout le monde, là, vous avez compris ce que j'ai dit là, sur l'âme? Bon. Le croyant, dans le fond, lui, là, il a son âme, puis... S'il ne voit pas le rôle de son âme dans sa vie, son expérience spirituelle va être superficielle. Il va apprendre à tout faire ce qui est supposé, mais il ne va pas nécessairement connecter à l'Esprit de Dieu. Ça, je dis que ça peut être... Tu sais, j'écoute mon âme qui, tu sais, ma volonté. Ben ça, c'est une bonne affaire chrétienne. Tu sais, ce qu'on a connu pendant tellement d'années, là, faire toutes les belles affaires chrétiennes, tout ça, mais que ça soit sec, là, puis que ça soit comme ça manque la vie, là. Mais ça, c'est parce qu'on est... charnel, mais à la belle façon. Okay, on est soulish. On écoute notre pensée, notre volonté, notre façon, qui ont bien du bon sens, là. C'est ça le problème, c'est que ça a bien du bon sens. C'est là la tromperie, c'est là qu'on voit pas. Ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Non, non, ça a du bon sens. C'est ça le problème. Ça a du bon sens pour nous. Ben voyons, c'est bien raisonnable, ça. Comprenez-vous? Mais c'est notre, c'est à nous. On est l'original. On est à l'origine de ça. Okay? C'est pour ça que c'est tellement important. Pourquoi? Parce que là, notre corps, c'est on lui donne accès au péché. Mais encore là, c'est pas nécessairement du gros péché évident, mais fais ça pendant un bout de temps, puis de plus en plus, ça va être évident le péché. C'est la manière qu'on arrive. Mais écoute, il y a sûrement plus à la vie chrétienne que ça. Je suis habitué au péché, à la défaite, puis je suis surpris par la victoire quand ça arrive une fois de temps en temps. C'est parce que Je me soumets pas à la pensée, à la volonté, puis aux émotions de Dieu, mais à moi. Me laisse diriger par mon âme. OK? Et ça, c'est ce qu'il y a vraiment de pire. C'est la pire tromperie. Tu peux tout donner ça, appeler ça chrétien, tu y mets une Bible, tu le mets tout beau, là. Puis, hey, c'est un bon chrétien, c'est une bonne chrétienne. Mais c'est encore la chair. OK? Ma pensée, mes émotions, ma volonté. Et je n'ai déjà parlé, mais vu qu'on a souvent on a une tendance plus forte qu'une autre, ben ça me donne aussi trois sortes de milieux chrétiens. Hein? Les milieux qui mettent la volonté à l'avant, d'autres la pensée, puis d'autres les émotions. Baptiste, réformé, pentecôtiste. Ok, on va juste être clair, là. Non, mais tu sais, pourquoi passer par quatre chemins? Là? Donc, ça veut dire que dans les milieux où est-ce que les chrétiens sont beaucoup orientés vers la volonté, ben, ça va donner que, ben, plaire à Dieu, savoir une volonté de faire, c'est d'être déterminé, puis OK? Mais le problème là-dessus, c'est pas d'être déterminé, avoir une volonté de faire, c'est où l'origine de ce que tu veux faire? Est-ce que tu fais ce que tu veux faire ou ce que Dieu veut que tu fasses? Ah, je vais parler à quelqu'un, je vais parler du Seigneur, oui, OK? Mais c'est toi qui es l'initiative. Est-ce que tu fais ça avec la compassion, l'amour de Christ qui te presse ou juste parce que c'est un sens du devoir puis c'est ça qu'il faut qu'un chrétien ça fasse? OK? Puis bon. Et on peut dire, ah, c'est trois choses différentes, pensée, volonté, émotion, mais ils ont tout en commun, c'est dans le domaine de l'âme. Et si j'en parlais ce matin, les milieux chrétiens sont caractérisés par ça. On a beaucoup de chrétiens, les milieux chrétiens différents, les trois catégories que j'ai données, ont tout en commun, souvent, d'être dirigés par notre âme, par nous-mêmes. Et savez-vous ce qui est ironique? Par exemple, dans les milieux où est-ce que la volonté est forte, là. Savez-vous ce que ça donne? On a nos préférences, nos convictions. Non, non, non. Puis souvent, on n'est pas disposé à la volonté de Dieu. Mm-hmm. Dieu nous sort de la zone de confort, puis il nous dit, hey, on ne ferait pas ça, hein, ça n'a pas de bon sens, puis Dieu, puis on ne l'écoute pas. Ben, ouais, on ne ferait pas ça, ça n'a pas de bon sens. Dans les milieux où est-ce que c'est la pensée qui est mise de l'avant, c'est le chemin de la propre sagesse, de la sagesse en nos propres yeux. Puis on a la misère à écouter ce que le Saint-Esprit nous dirige de faire. Ah oui, la parole, on peut la connaître, tout ça, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide, c'est lui le vrai enseignant. Parce que souvent, ils vont s'appuyer sur les théologiens des grandes époques, puis tout ça. Puis c'est pas qu'on veut leur cracher dessus, mais le vrai enseignant dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Puis ceux qui s'orientent sur les émotions, ben ils vont rechercher le plaisir, le sentiment, l'expérience. Donc, c'est trois façons d'exprimer l'âme. Une vie selon l'âme, qui est vécue, pour le dire très simplement, par la force du moi. C'est moi et non pas Christ en moi. Le moi plein de bonne volonté, le moi tout fin puis tout gentil puis qui veut au bout, là. Mais c'est moi pareil. Et cette puissance du moi qu'on voit, c'est naturel, c'est pas surnaturel. Ça peut être des talents, des habiletés, de l'éloquence, de l'intelligence, toutes sortes de domaines, du charisme. Bon, quand on dit mouvement charismatique, être doué, avoir des dons naturels, de l'enthousiasme et tout ça. On a tout ça dans le domaine naturel. Nous, on parle de vivre une vie surnaturelle. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on voit. Puis, juste, j'arrive vers la fin, mais pour amener deux applications importantes par rapport à ce qu'on vient de voir. D'abord, ça va donner, lorsqu'on a cette pensée-là, ça va donner cette fameuse pensée-là. Tu sais, mettons, on va voir un verset comme « Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur à ceux qui sont en défiance. » On va dire « Dieu, peux-tu venir m'aider? » Peux-tu me donner de la force? Je suis en défaillance, j'ai de la misère. Donc, Dieu, peux-tu aider mon moi? Donc, on voit Dieu comme là, puis nous, on est là, puis viens m'aider ici, là, pour ce que je veux faire pour toi, Dieu. Au lieu de le voir comme en nous. Puis Dieu, c'est ton idée. C'est toi qui m'as donné, bien, c'est toi qui va falloir qu'il le fasse. C'est pas comme Dieu, peux-tu venir m'aider là? C'est Dieu, tu me demandes de le faire, il va falloir que ce soit toi qui me donne la force de le faire. Puis, moi, tu sais comment je suis faible, comment je suis... J'ai pas de sagesse, j'ai pas de... OK? Donc, c'est pas Dieu là qui nous aide ici à faire ce que moi je veux, c'est Dieu qui est en nous qui nous donne la grâce, la force de faire ce que lui veut. OK? C'est Dieu qui est à l'origine de ces choses. Premier point à comprendre. Fait que quand la vie de l'âme, l'homme est à l'origine. La vie de l'esprit, c'est Dieu qui est à l'origine. OK? Puis souvent, on va dire, Dieu aide-moi à faire. Alors que la façon biblique, c'est Dieu qui veut faire à travers nous. Puis on a besoin tout autant de son aide, mais comprenez-vous, c'est pas Dieu aide-moi à faire ce que je veux faire, c'est Dieu, si tu veux que je fasse ça, je peux pas le faire sans toi. C'est-à-dire, on a besoin de l'aide dans les deux cas, mais il y a un cas que c'est nous autres qui est à l'origine, puis l'autre c'est Dieu. OK? On a besoin de l'aide de Dieu, sans lui on peut rien faire, ça n'a pas changé. Là, OK? Puis sa grâce nous suffit parce que si on n'a pas sa grâce, on peut pas rien faire. OK? Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose bien importante, comment ça va se manifester dans nos vies? Et c'est là que je te dis, là, c'est là que ça montre que la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Si on se laisse diriger par notre âme, ça va donner une volonté obstinément insoumise. T'sais, alors qu'on veut faire vraiment là, la volonté de Dieu, là, ben, l'ironie, là, c'est qu'on va être tête dure pas à peu près. Dans les milieux, on a-tu remarqué ça dans nos milieux? Être assez tête dure que, tu sais, on est boqué, puis hey, là, ça paye. On est dur à faire changer d'idée. Première chose. Une autre manifestation, parce que vous allez voir, là, volonté, pensée, émotion. Là. Une confiance en nous-mêmes, là. Hey, là, moi, je suis certain, ça, c'est bon. Pis, ça, c'est le domaine de la pensée, là. Être vraiment sage à nos propres yeux, là. Là, c'est le temps là, de casser du sucre sur le dos des réformés. Hey, les autres, oh, là, ils font dur, eux autres. Là. Nous, on est bien mieux qu'eux autres. Là. Ah ouais, c'est ça. Non, mais comprenez-vous, c'est tout le temps l'ironie. Tu veux de la volonté, tu vas avoir une volonté soumise. Tu veux de la sagesse, tu vas avoir une sagesse à tes propres yeux, puis tu ne seras pas enseignable. Puis, quand c'est les émotions, ben, ça va nous donner une vie, bon, on peut dire sensuelle ou charnelle, à la recherche du plaisir, de l'expérience, du wow, OK? Et dans le fond, quand ça arrive, que ça donne, on va arriver au bout de nos forces. Puis c'est ça la bénédiction de tout ça. Dieu veut nous laisser aller un bout de temps. Alors, vas-y avec ta belle grosse volonté, vas-y là, avec ta belle grande connaissance, vas-y avec... Puis là, il arrive au point où est-ce qu'il fait cette chose la plus bénie dans notre vie. Lorsqu'on se nourrit au mauvais arbre, lorsqu'on va à la mauvaise source, il permet de nous briser complètement. Puis là, on dit, hein, ça marche pas pantoute. Ça, c'est l'endroit le plus béni de l'enfant de Dieu. Quand il arrive à ce point-là, où est-ce que ça marche plus pantoute. Gloire à Dieu, parce que là, il va avoir le goût, puis il va arriver au point où est-ce qu'il va enfin pouvoir goûter la vraie vie. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir du succès dans ce qui n'a pas d'importance ou dans ce qui est destructeur. Et quand Dieu nous amène à ce que tout notre petit monde qu'on a voulu bâtir de même se brise, c'est une grâce, c'est un don merveilleux de la part de Dieu qui nous dit « J'ai bien mieux pour toi, mon enfant. » C'est ça la beauté. C'est ça. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il veut briser? Quand on parle de brisement, il veut briser ma volonté, il veut briser ma façon de penser, puis il veut briser mes désirs, mes propensions, mes émotions. Puis là, on dit, ça non, ça non. Maintenant, pas fin de faire ça à quelqu'un. Ah non, parce que c'est nous qui n'est pas fin avec nous-mêmes. Avec notre volonté, notre pensée, nos émotions, on se détruit nous-mêmes. Fait que Dieu brise ça et dit, hey, moi, je suis dans le business de construction. On va faire de quoi de tellement mieux, là. Toi, tu es dans le business de tout détruire. Mais moi, je vais briser ton brisage puis je vais faire de la construction à place. J'ai manqué de dire construisage juste pour faire drôle, mais là, je suis gêné à cette heure de faire des jokes parce que c'est ça. Hey, j'en ai deux, trois. Hey, les Sylvie. J'ai deux Sylvie qui vérifient mon français. Puis peut-être que l'autre Sylvie aussi a vérifié mon français. Oui?
J'ai même pris des notes.
Ah! J'ai même pris des notes. Oh non! OK. Regardez, je veux juste amener... Tu sais, c'est pas nouveau ce qu'on amène l'après-midi, mais juste pour dans le fond, regarde, la relation entre le péché le corps, faut voir que l'endroit, le centre névralgique, là, le point tournant, c'est mon âme. C'est moi qui vais dire oui au péché, mais je vais le dire tellement d'une façon sophistiquée et belle que ça va avoir du bon sens.
faut être convaincu perdu que non, c'est pas bon, ça n'a pas de bon sens parce que on raisonne, on est ci, puis on est ça, puis enfin, on a le tour, hein, on a une auto, une capacité à s'auto-tromper, là, qui est assez impressionnante, merci. On va pêcher pour faire des niaiseries tout en se disant qu'on est spirituel et que ça va bien. Puis tout ce temps-là, c'est notre âme qui dirigeait. Mm-hmm. Questions ou commentaires? Yes?
Oui, ben juste, c'est ça pour résumer. C'est bien qu'on a été fait une nouvelle créature dans notre esprit. On est une nouvelle créature dans notre esprit, c'est ça? Mais notre âme n'a pas été encore régénérée, ni notre corps. Notre âme est en train d'être régénérée ou sanctifiée.
Ouais.
À chaque jour, par l'esprit, qui maintenant c'est Dieu notre maître, donc c'est lui qui
soumet notre volonté à la sienne.
Quand on se soumet à lui, mais là notre âme, il va expérimenter holiness, sanctification. Le corps, il va être.
Il va suivre.
Le corps, oui, mais le corps, il va régénérer au ciel. Il n'est pas encore. Quand il n'y aurait plus de péché, la présence du péché, c'est ça? Le corps, il va être glorifié, non? C'est ça, la glorification.
Oui. Mais en même temps, quand que notre âme cède à Dieu, notre corps, ça veut dire qu'on va être en santé, mais notre corps va être un véhicule de la justice de Dieu.
Oui, non, mais je parle comme la pleine glorification.
Ah ouais, non, ça c'est dans la présence de Dieu.
Donc, nous, on a été, je pense à tout le monde, là, on a été régénérés, on est une nouvelle créature dans notre esprit. Notre esprit n'est plus lié au péché, maintenant il est lié à Jésus.
Mm-hmm.
Donc, puis quand on se soumet à lui, quand on soumet notre volonté, nos pensées, nos émotions à lui, mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis, on expérimente une liberté.
Oui.
Puis une paix, une joie.
Parce que la volonté de Dieu, pensée, volonté, émotion de Dieu, c'est communiqué à notre esprit. Quand l'âme se soumet à ça, quand elle s'enligne, quand elle connecte, on va voir ça dans le message de dimanche matin prochain, c'est là qu'on expérimente la sanctification. C'est là notre choix, c'est là notre foi, c'est notre âme. Zoé, c'est la vie de Dieu en nous. On a perdu ça à la chute. Bios, c'est la vie ordinaire, là. C'est comme le sang qui coule dans nos veines, là. Dans le fond, la régénération, c'est Dieu qui nous redonne la vie, Zoé, la vie.
C'est grec, ça?
Ouais, c'est grec. En hébreu, c'est d'autres mots, je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais on voit ça dans. Tu sais, quand il y a insufflé le souffle de vie, là, on voit ça dans la création dès le début.
Bios, c'est comme biologie.
C'est ça. Ouais. Oui, Pascal, puis je pense aussi, Charmant.
Ouais, mais là, je vais peut-être lancer juste des idées, puis j'ai comme un de questions qui me passent par la tête, puis là, des fois, je vais la suite à part de l'autre. Est-ce que c'est juste de dire que ce qui est uni à Christ, c'est notre esprit?
Oui.
OK, ça c'est beau. Après ça, ça m'échappe. Quand on parle du, mettons comme la prière qui est comme un aspect physique, si on veut, est-ce que là, ça c'est l'âme qui vient s'accorder avec l'esprit? Ou est-ce que...
Oui.
Dans un sens de...
Avec les moyens de grâce comme la parole, la prière, ça l'enligne.
C'est comme des moyens physiques qu'on utilise pour venir.
Ouais.
De... OK, c'est juste une réflexion. Puis.
Attends, juste une petite pensée, mais ça... oui? Tu sais, pourquoi que je lirais la parole? Pourquoi que je prierais?
Ouais.
Ben, c'est l'œuvre de grâce de Dieu qui va, tu sais, qui va faire cette œuvre de soumettre ma volonté, ma pensée, c'est parce que moi je pense de ma façon, mais là j'arrive avec la parole, je pense pas de la bonne façon. Puis là j'arrive dans la prière, puis j'ai tellement de volonté, puis Dieu dit non, ça c'est ta volonté, là, ça n'a pas rapport, là. Moi j'ai d'autres choses que je veux, tu sais.
Ouais.
Fait que.
Ouais. Faut que j'ai. I'm gonna chew on that one.
Yes.
Mais c'est la bonne matière à méditer dessus. Mais j'ai deux autres choses aussi qui me passent par la tête, quand on parle de. Attends, là, j'ai mêlé les deux idées que tu as ramenées. quand on parle des trois en trois parties, est-ce qu'on a. Parce que c'est beaucoup des choses que je vois comme dans des livres, dans des textes comme expliqués. Est-ce qu'on voit dans la parole des trucs qui vont venir
Oui, qui corrobore ça, absolument. L'acte de création, on voit les trois.
OK.
OK, corps, âme et esprit. Il y a Dante Soloniciens. Puis, OK, j'ai pas le temps de trop développer là-dessus, mais il y a des passages clairs qui nous montrent la distinction entre corps, âme et esprit. Mais aussi, tu sais, tout ce qu'on parle de Christ, notre vie et tout ça, c'est très important d'avoir une anthropologie qu'on se voit en trois parties. Parce que l'idée, c'est que le vieil homme versus, OK, puis tout ce qu'on parle de ça, il faut que ça soit avec les trois parties, que l'Esprit de Dieu communique à notre esprit. Puis que notre volonté qui nous reste... Sinon, ça marche pas, puis ça l'amène, tôt ou tard. Là, je veux pas prendre ce mot-là nécessairement à du légalisme. Ou à, si je me vois juste en deux parties, ça change toute cette dynamique-là. J'ai pas le temps de développer en détail là-dessus, mais quand on voit ça souvent, notre théologie, c'est très important. Puis ça, ben, l'anthropologie, c'est une partie de la théologie. Si je me vois en trois parties versus deux, ça change beaucoup au niveau de comment je vais voir la sanctification. Un instant, Josiah.
Ben, vas-y.
Ouais.
Est-ce que c'est précis à dire peut-être que Jésus est le médiateur entre notre esprit et Dieu et notre âme est le médiateur entre notre esprit et notre corps, peut-être? De voir notre esprit
oui.
est là et lié à Dieu par Jésus
ouais.
et notre esprit est lié par le corps par l'âme.
Oui. Oui, parce que c'est notre centre de décision. Où est-ce que, tu sais, c'est ça, on va-tu céder ou non? Attends, je vais laisser Pascal finir sa question.
Le dernier petit, c'est pas long non plus, c'est le côté, tu sais, quand on parle de comme on a un nouveau cœur,
mm-hmm.
où est-ce qu'on place ça dans comme le physique ou le spirituel? Tu sais, parce que j'ai un cœur physique, mais je sais que c'est pas ce qu'on parle quand on parle d'un nouveau cœur.
C'est spirituel, c'est l'esprit.
Okay, bon.
Parce que, tu sais, aussi quand on parle du vieil homme versus le nouvel homme, Dieu nous a donné, tu sais, avant on était mort dans nos offenses et nos péchés, on était mort spirituellement. Dieu nous a rendu à la vie. Puis ça, c'est spirituel, OK? Mais on a encore, tu sais, j'ai encore ma personnalité de gars qui parle trop fort, puis tout ça, tu sais. J'ai encore ce côté-là, mon âme. Ça, c'est ma particularité. C'est, on a chacun notre particularité de personnalité, puis tout ça, c'est notre âme, tu sais.
Quand on parle que le cœur de l'homme est foncièrement mauvais, c'est son esprit.
Ça s'applique plus aux chrétiens.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'on a un nouveau cœur. Ce qui s'applique à nous, c'est Ézéchiel 36-26. Je vais prendre votre cœur de pierre, je vais vous donner un cœur de chair. On a un nouveau cœur.
Méditer sur toutes ces choses.
Ouais. Oui?
Moi, j'ai posé beaucoup de questions que j'avais, des questions sur ça, pour l'âme et corps.
Esprit.
Esprit. Mais après, je me suis demandé, mais le âme et l'esprit, ça se fait liaison ensemble.
Oui.
Quand on est ici sur la terre.
Oui.
Avec le corps, mais quand le corps est déjà. Quand quelqu'un meurt, et le corps, l'esprit, ça va ensemble ou bien.
Le corps s'en va à la terre, puis ça, c'est pour la résurrection.
Oui, ça.
Mais tu sais, notre esprit puis notre âme, tu sais, quand on va aller au ciel, on va pas perdre notre personnalité. Je vais pas juste être comme un. Tu sais, je vais garder ma particularité. Ça, c'est mon âme. Tu sais, c'est le Guillaume que vous connaissez avec comment il est, là. Ça, c'est mon âme. Mais je vais être encore au ciel, puis je vais pas devenir là, comme beige. Tu sais. Ouais, vous allez pas gagner à l'éternité, là.
Ça, je me demande, souvent j'entends dire que c'est l'âme, c'est ce qui est accueilli par la main de Dieu.
Ouais, ben là, souvent c'est oui, jusqu'à ce qu'on son âme, à son créateur, puis tout ça. Et oui, mais tu sais, l'esprit, c'est quoi lui? Il s'envole?
Où à ce moment-là?
Non, non, c'est les deux. C'est notre partie invisible spirituelle, ça retourne à Dieu. Oui, Dave.
Peut-être pour éclaircir par rapport à ça, il y a quand même des passages dans la Bible qui ne font comme pas de distinction entre âme et esprit parce qu'ils mettent comme ensemble.
Oui.
À certaines places,
ouais.
Justement, pour juste séparer le corps de tout ce qui est.
Oui, du spirituel, c'est ça. Oui. Dans ce sens-là, oui, c'est ça. Oui, Max, Jean-Pierre avant, parce que tu avais levé la main avant.
Ben, en tout cas, moi, j'avais déjà pensé à ça un moment donné, puis bon, ça, peut-être ça se tient pas, mais en tout cas, tu sais, je me disais, bon, Dieu nous appelle nous appelle à quelques endroits là, dans sa parole, là, des dieux, des, avec un D minuscule.
Deux endroits, le psaume puis Jésus le cité.
Oui. Bon, c'est ça, puis je me dis, bon, Dieu étant trois personnes, je me disais, bon, nous, est-ce que c'est... est-ce que ça serait quelque chose qui aurait du bon sens de faire un certain parallèle à ce moment-là de Dieu?
On est en trois parties comme Dieu.
C'est ça, c'est
le... Oui, mais faut garder une petite gêne parce ouais. que Dieu est Dieu, puis tu sais, il y a des. Tu sais, c'est trois personnes distinctes.
Oui, c'est ça.
Tu sais, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, c'est un Dieu comment, là, dans les co-éternels, que, en tout cas, puis là, tu sais.
C'est ça, nous, dans un sens. Mon corps c'est Jean-Pierre, mon esprit c'est Jean-Pierre aussi, puis c'est ça le
puis ton âme aussi. Ouais.
Je pense
il y a un parallèle, c'est sûr, on est fait à l'image de Dieu. Moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je crois qu'on est en trois parties, parce qu'on est à l'image de Dieu.
Ouais.
Puis, Jésus, hein, c'est Dieu qui a pris un corps.
Ouais.
Tu sais, puis Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, puis bon, ouais. En tout cas, c'est ça. Il y a des parallèles à faire, c'est sûr. Mais il faut, tu sais, on parle de la personne de Dieu versus la création. Tu peux pas faire trop de parallèles non plus.
Mm-hmm.
Mais on est fait à l'image de Dieu, puis je pense que c'est, oui. Oui, Maxime?
Je vais me demander comment faire la distinction, mettons, dans la pensée, ou dans ce qu'on veut faire, ou tu sais, comment je dirais ça? Qu'est-ce qui vient de l'un puis de l'autre? Tu sais, des fois, il y a...
Très bonne question. Hébreux 4:12. Hébreux 4:12, ça nous donne la réponse.
Ok,
la
question.
Yeah. Car la parole. C'est fort, ce gars-là.
J'aime ton humilité.
Ah, oh, oui. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Voyez-vous? Âme et esprit. Ma volonté, ma pensée, puis versus celle-là de Dieu. À partage entre les deux. Jointure et moi, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole va dire, ça c'est ton idée, ça c'est ta volonté, c'est ta pensée, c'est tes émotions, puis ça c'est moi. C'est la parole qui partage. Évidemment, c'est à travers le ministère du Saint-Esprit.
Ouais.
Parce que, tu sais, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige dans toute la vérité.
Mais mettons, tu sais, dans les affaires plus, on va dire pratiques, ou je sais pas trop, des choses dans la vie où la parole de Dieu va pas nécessairement régir.
Me marier-tu avec telle personne, ouais, je déménage-tu à telle place.
Faut-tu que je mange une poutine, puis là, des fois, ça peut être la chair ou l'homme, mais mettons que Dieu veut que j'aille manger une poutine pour témoigner à quelqu'un, genre Washington, je sais pas.
Ça se peut pas.
Non, c'est juste des impies, ce bon-là.
Désolé, non, mais...
Mais là, faut que je pense ça pour quelque chose de spirituel.
Pour revenir un peu sérieux, c'est ça, tu vas pas avoir comme verset à l'appui, puis
c'est ça.
Thou shalt eat a poutine at Ashton, tu sais, ça va pas dire ça, là. Mais, tu sais, il y a des principes de la parole, justement, tu sais, que la personne, tu sais, là, tu parles, mettons, t'arriverais comme. À brûle pour point sur quelqu'un, puis là tu y témoignes. Tu sais, dans le fond, Dieu peut te mettre à cœur, tu sais. Dieu nous dirige, là. Il y a la direction intuitive du Saint-Esprit, là. Ça va jamais être en contradiction avec la parole, mais ça va pas nécessairement toujours être avec le verset. Tu sais, je te dirige, donc là j'ai le verset avec.
Là, je vais revenir, c'est mettons, il y a des fois où c'est plus clair la volonté de Dieu, puis elle va à l'encontre de ce que la chair la veut, là.
Ouais.
Fait que je vais faire un choix. C'est vraiment très clair, mais des fois que, tu sais, le Seigneur, il y a des choses que tu veux, puis que le Seigneur, il va te garder, tu sais, il va te permettre d'avoir des choses de fun.
Mais regarde, pour répondre à ta question, là,
ouais.
Oui, il y a la parole, mais il y a le Dieu de la parole. Ça revient à notre qui, tu sais. Parle-en à Dieu, puis tu sais, on va à lui, là, puis il nous dirige, dans le sens que, tu sais, des fois, sur les affaires, c'est pas si clair, mais tu peux en parler à Dieu, puis il va te diriger dans... T'sais, Dieu est personnel, là, puis il va nous communiquer. Oui, frère. Hey, il y a beaucoup de. Ensuite, Josiah, ensuite, Christina.
Là-dedans est la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire, parce que c'est pas la souveraineté comme son contrôle. Tu vas manger un poutine pour que je fasse ça, mais dans nos choix, Dieu est souverain d'orchestrer les choses par nos volontés.
Ouais.
C'est le. Équilibre.
Ouais.
Puis moi je le vois comme une question de soumission. On soumet notre volonté à lui, donc on s'en va avec ça. Puis Seigneur, je te souhaite Même Jésus, quand il est allé à la croix, il dit, Père, si, éloigne cette coupe de moi, mais toutefois, à ma volonté, mais ta volonté. Donc, même si on va à Dieu avec des choses, juste de lui soumettre, puis être ouvert à sa volonté. Parce qu'il peut nous dire, même si tu vas manger à quelque part, puis c'est pas ça que Dieu veut, mais être ouvert à sa volonté, il va se servir de ça. C'est une question de dépendance.
C'est
pas tellement une question de bien puis mal.
Ouais. Non, puis j'ai lu un auteur qui parlait d'une conscience, tu sais, une disposition consciente, une ouverture consciente de Dieu. Tu sais, moi je suis disponible, tu fais ce que tu veux avec moi. Tu sais, une ouverture consciente, Dieu. C'est toi qui colle les shots. Moi, je suis juste là pour, tu sais, me soumettre à ce que tu veux. Ouais. Fait que quand tu as cette disposition-là face à Dieu, tu sais, on s'entend, il n'y a pas de perfection ici-bas, là. Tu sais, fait que c'est ça. Waouh, vous êtes bien.